Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Je vous invite à ouvrir le texte de ce matin afin de poursuivre, comme c'est le cas chaque dernier dimanche du mois, dans l'évangile de Marc, au chapitre 14. Cette fois-ci, nous poursuivrons du verset 12 au verset 31. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent « Où veux-tu que nous allions te préparer le repas de la Pâque ?» Il envoya deux de ses disciples et leur dit « Allez à la ville. Un homme portant une cruche d'eau vous rencontrera. Suivez-le. Et là où il entrera, dites au maître de la maison, le maître dit, où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples ? Et il vous montrera une grande chambre haute, aménagée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. » Les disciples partirent, arrivèrent à la ville, trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et préparèrent la Pâque. Le soir venu, il arriva avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus leur dit « En vérité, je vous le dis, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. » Ils commencèrent à s'attrister et à lui dire l'un après l'autre « Est-ce moi ?» Il leur répondit « L'un des 12, celui qui met avec moi la main dans le même plat. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à cet homme-là, par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme ne pas être né. » Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir dit la bénédiction, il le rompit, et leur donna en disant « Prenez ceci et mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup. En vérité, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Jésus leur dit, « Vous trouverez tous une occasion de chute, car il est écrit, « Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. » Mais, après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. » Pierre lui dit, « Quand tous trouveraient une occasion de chute, moi pas. » Et Jésus lui dit, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante deux fois, toi, tu me renieras trois fois. » Mais Pierre affirmait plus fort, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai point. » Et tous disaient de même.
Si vous n'aviez pas avancé vos montres d'une heure ce matin, vous ne seriez pas là. De même, si le Saint-Esprit ne règle pas notre horloge à l'horaire de Dieu, c'est comme si nous n'étions pas là lorsque la parole de Dieu est lue. Laissons donc Dieu régler notre horloge du cœur pour que nous soyons là pour l'entendre et qu'il touche nos cœurs par son Esprit. Nous avons la joie d'ouvrir l'Évangile selon Marc afin de mieux connaître Jésus-Christ. Et nous parcourons ce récit qui a pour source un disciple très fougueux de Jésus. Et aujourd'hui, il nous raconte le dernier repas en une vingtaine de versets. Alors que Jean, il prend des chapitres pour parler de ce repas, eh bien Marc, qui reçoit les informations de Pierre, prend une vingtaine de versets. Et Marc présente ce dernier repas avec quatre caractéristiques. Ce sera nos quatre points, en fait, de ce jour. Le premier, c'est que Jésus fait préparer le repas. On verra que c'est Jésus qui invite en fait. C'est Jésus qui prépare, qui fait préparer le repas. Deuxièmement, Jésus va pousser ses invités à s'examiner. Vous ne l'avez pas vu ? Ben on va le voir ensemble alors. Troisième chose, Jésus donne une nouvelle signification au repas qu'ils sont en train de prendre. Et quatrièmement, Jésus annonce qu'il sera abandonné par tous ses invités. Voilà les quatre aspects que Marc nous montre dans ce texte sur le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples. Nous allons donc garder vos Bibles ouvertes dans Marc 14, puisque nous relisons maintenant les versets 12 à 16 pour notre premier point, qui s'intitule « Jésus fait préparer le repas ». Donc, chapitre 14, verset 12. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent « Où veux-tu que nous allions te préparer le repas de la Pâque ?» Il envoya deux de ses disciples et leur dit « Allez à la ville. Un homme portant une cruche d'eau vous rencontrera. Suivez-le. Et là où il entrera, dites au maître de la maison. » Le maître dit « Où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Et il vous montrera une grande chambre haute, aménagée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Les disciples partirent, arrivèrent à la ville, trouvèrent les choses comme il le leur avait dit et préparèrent la Pâque. Jusqu'ici. Pourquoi Jésus fait-il tant de mystères pour le lieu du dernier repas? Alors, afin de comprendre un peu le contexte, j'aimerais vous lire deux versets qui parlent de ce contexte, qui nous aident à comprendre. Le premier, eh bien, c'est le verset 11. On a lu à partir du verset 12. Mais si vous lisez le verset 11, il est dit que les sacrificateurs, là, écoutèrent Judas avec joie et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Dans Jean, au verset 57 du chapitre 11, il est dit ceci. « Or, les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné des ordres pour que si quelqu'un savait où il était, il le dénonce afin qu'on l'arrête. » Voilà le contexte, en fait. Et un endroit fermé dans la ville était le lieu idéal pour une arrestation discrète et éliminer Jésus. Donc, un endroit fermé dans la ville était un lieu idéal pour une arrestation discrète et éliminer Jésus. Mais le maître choisit lui-même quand il veut être arrêté. Le maître choisit lui-même quand il veut être arrêté et veut vivre tranquillement son dernier repas avec ses disciples. Donc là, c'est quelque chose, c'est une raison pour laquelle Jésus va agir de cette manière telle qu'il l'a fait. En fait, Jésus a tout arrangé de manière à ce que personne ne sache, en fait, où ils iront. Les seules personnes qui seront, c'est les deux disciples qui sont envoyés. Et encore, ils vont à l'avance et je pense assez clairement qu'ils y restent jusqu'à ce que les autres arrivent. Personne ne peut savoir où c'est. La façon de trouver le lieu est faite d'ailleurs de manière à ce que personne d'autre ne puisse même entendre où cela se passera. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'y a rien qui est dit publiquement. Les disciples vont en ville, ils rencontrent un homme qui a une cruche sur la tête. C'est très bizarre. Hein? C'est comme si aujourd'hui on vous dit vous allez en ville de Neuchâtel et vous rencontrez quelqu'un qui a un pot de fleurs sur la tête. Vous le suivez. Il est reconnaissable. Mais il n'y a pas besoin de lui parler. En fait, ils le suivent et c'est quand ils sont dans la maison qu'ils disent au maître de la maison où est l'endroit. Personne ne voit ce qui se passe, c'est à l'intérieur. Jésus maîtrise complètement la situation. Et cela ressemble beaucoup à Marc 11, qu'on avait vu ensemble. Hein, lorsque Jésus voulait une monture pour entrer à Jérusalem sur un âne. C'est très semblable, hein. Il y avait deux disciples. Et ils reçoivent chacun une tâche spécifique. Exactement comme ici. Une description des lieux, des circonstances sont données pour trouver l'endroit. Même la parole à donner à ceux qui rendent service au maître est donnée. On leur dit, voilà ce qu'il faut dire. Et Jésus va même leur dire, voilà ce qu'on va vous répondre. Et il leur dit encore ce qu'ils doivent faire une fois que tout leur est expliqué. Dans les deux cas, cela démontre que Jésus a tout préparé. Jésus a tout préparé. Il est celui qui accueille ses disciples. C'est Jésus qui accueille ses disciples pour ce dernier repas. Et Jean nous dira même que c'est lui qui lave les pieds de ses disciples. En fait, laver les pieds de ceux qui étaient présents, c'est celui qui accueille qui le faisait ou qui demandait à un de ses serviteurs de le faire. Jésus n'a pas de serviteur, donc c'est lui qui va le faire. Donc ce premier point nous permet de comprendre que ce dernier repas très spécial est une invitation de Jésus qui accueille ses disciples. Cela nous permet déjà de comprendre un élément qui nous sera utile par rapport au repas du Seigneur. La Sainte Cène n'est pas un repas que nous organisons pour Jésus. C'est un repas que Jésus organise pour nous. Et ça devrait influencer notre façon de prendre la scène. La Sainte Cène n'est pas un repas que nous organisons pour Jésus, c'est un repas que Jésus organise pour nous. Mais dans quelle attitude devons-nous venir à ce repas? C'est le deuxième point qui nous en parle. Donc là, je l'ai intitulé « Jésus pousse ses invités à s'examiner ». Nous allons relire le verset 10 et 11 et ensuite 17 à 21 pour nous remettre dans le contexte. Verset 10, Judas Iscariote, l'un des douze, alla trouver les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Ils l'écoutèrent avec joie et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Verset 17, le soir venu, donc tout a été préparé, Jésus donc arriva avec les douze. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, « En vérité, je vous le dis, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. » Ils commencèrent à s'attrister et lui dire l'un après l'autre, « Est-ce moi ?» Il leur répondit, « L'un des douze, celui qui met avec moi la main dans le même plat. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à cet homme-là, par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme ne pas être né. » Marc ne parle pas de tout ce qui s'est passé durant la soirée. Il choisit l'institution du repas du Seigneur de manière très succincte. Donc il ne dit pas énormément de choses. Mais malgré sa brièveté, il prend le temps de parler d'un incident qui fait réfléchir tout le monde. Jésus annonce que un de ceux qui est présent le livrera. En fait, il incite chacun à s'examiner soi-même. Et les disciples ont compris qu'il fallait s'examiner. Les disciples ne commencent pas à regarder autour d'eux et à soupçonner qui est-ce que cela pourra être. Non. Ils disent l'un après l'autre, est-ce moi? Est-ce moi? Donc les disciples ont compris ici qu'il fallait s'examiner. Ils ne commencent pas à regarder autour d'eux et soupçonner tous ceux qui sont avec eux. Ils disent l'un après l'autre, est-ce moi? Lors de la Sainte Cène, nous sommes aussi invités à nous examiner. Vous connaissez ce texte dans 1 Corinthiens 11, que je lis régulièrement lorsque l'on prend la Sainte Cène, qui dit ceci, « C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. » 1 Corinthiens 11, les versets 27 à 28. Et la situation est claire ici. Marc 14, verset 10, on l'a lu tout à l'heure, nous dit clairement, « Judas Iscariote, l'un des douze, alla trouver les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. » C'est très clair. Judas est parfaitement au courant qu'il va livrer Jésus. En fait, il n'a pas besoin de faire une grande introspection, de dire est-ce que dans le coin de ma pensée, il y aurait un mini-désir de peut-être avoir une fois la pensée de livrer Jésus? Mais non, c'est clair. Pour Judas, c'est clair. Et en fait, lorsque nous nous examinons avant le repas du Seigneur, il y a des choses qui sont claires. Nous pouvons savoir si nous avons manifesté publiquement notre foi par le baptême ou non. Pas besoin de réfléchir, c'est dans un petit coin de ma tête. C'est clair, oui ou non. Pas besoin d'une grande introspection. Nous savons aussi si nous avons un péché que nous ne voulons pas lâcher, que nous pratiquons sans repentance, même si on est baptisé. Il n'y a pas besoin d'une grande introspection. Ça, c'est un élément important à comprendre. C'était clair pour Judas. Il n'y a pas besoin de se poser mille fois la question. Et Jésus donne ici encore un deuxième enseignement. Il indique ce qui va lui arriver se passe parce que Dieu l'a prévu. Dieu est souverain. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. C'est très clair, en fait, ce que dit ici Jésus. Et en même temps, il parle de malheur pour l'homme qui le vit, qui le livre, qui est entièrement responsable de son acte. C'est un des passages de la parole de Dieu qui nous montre clairement que la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme ne s'annulent pas. La souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme, elles ne s'annulent pas. Et Jésus, sachant que le traître ne se repentira pas, ajoute cette terrible... Ici, il y a une terrible phrase. Hein. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte. Une phrase de la bouche de Jésus qui dit « Mieux vaudrait pour cet homme ne jamais être né ». C'est une phrase terrible. Terrible. Parce qu'en fait, Jésus sait que Judas ne se repentira pas. Cette phrase n'est jamais prononcée par Jésus pour quelqu'un qui se repent. Jamais. Jésus ne dit jamais cela. De Pierre, par exemple, même s'il lui annonce son reniement, il ne dit pas « mieux vaudrait que Pierre ne soit pas né ». Non. Il le dit pour Judas. Et je prie que ici, jamais personne n'entende cette phrase. Mieux vaudrait pour cette personne ne jamais être née. Que cela ne soit jamais prononcé à votre égard. Et la chose que je peux vous dire à chacun, c'est vous supplier de vous repentir de vos péchés, de saisir le pardon de Christ qui est acquis à la croix. Et celui qui entre dans ce chemin de repentance et de pardon n'entendra jamais cette phrase de la part de Jésus-Christ. Selon Jean, Judas est parti ensuite. Plusieurs discussions ont lieu et voilà que Jésus, qui conduisait le repas de la Pâque, ne dit pas exactement ce qui était habituellement dit par le chef de la maison. Nous arrivons à notre troisième point. Jésus donne une nouvelle signification au repas. Alors lisons les versets 22 à 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup. En vérité, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Alors pendant le repas de Pâques, plusieurs étapes étaient vécues. Je vais vous donner rapidement les différentes étapes qui étaient vécues. Donc premièrement, quand tout le monde avait pris place, le chef de famille commence la célébration par une bénédiction. Oh, c'est une preuve de plus que Jésus a invité les disciples, c'est lui qui prend la parole. Donc c'est le chef de la maisonnée, hein, c'est lui qui est invité. Donc quand tout le monde est assis, il commence par la bénédiction. Et une première coupe de vin était bue, distribuée et bue. Ensuite, la nourriture était posée sur la table. Il y avait du pain sans levain qui rappelait en fait la sortie d'Égypte rapide. Il y avait des herbes amères qui rappelaient les peines qui étaient vécues en Égypte. Il y avait... par la suite, ils ont ajouté encore une bouillie de fruits vinaigrés un peu orange pour rappeler les briques qu'ils faisaient en Égypte. Et il y avait l'agneau rôti, hein, qui rappelait la protection du premier-né. Donc tout ça était posé sur la table. Et à ce moment-là, le plus jeune de la maison, donc il s'entraînait hein, avant, il posait la question, mais pourquoi cette nuit n'est pas la même ou est différente de toutes les autres ? Et c'est là que le chef de famille répondait par le rappel de la sortie d'Égypte qui amenait en fait à la louange de Dieu qui a délivré son peuple et à l'anticipation de la rédemption à venir. Et là, il chantait en fait les psaumes du Hallel, il y en a, ça va de 113 à 118, et là, il chantait du psaume 113 au psaume 115 à ce moment-là. Et puis ensuite, une deuxième coupe était bu. Après cela, le chef de famille prenait le pain et prononçait la bénédiction. Et c'est à ce moment que nous sommes au verset 22 de Marc 14. Le chef de famille, après la bénédiction, d'ailleurs c'est intéressant, cette bénédiction avant de manger, ben, nous pousse à faire la même chose. C'est un des éléments, c'est une des sources qui nous encourage à prier avant de manger, ici, de ce qui se passe à Pâques. Donc après cette bénédiction, eh bien, il rompait le pain et le distribuait à chacun. Il le trempait dans les herbes amères et commençait à manger. Et c'est là que Jésus indique que le pain qu'il leur donne représente son corps. C'est à ce moment-là que Jésus indique que le pain qu'il leur donne représente son corps. C'est nouveau pour les disciples. Ils n'avaient jamais entendu ça jusque-là. Jésus avait déjà dit qu'il était le pain de vie, c'est vrai. Mais jamais il ne leur avait donné un morceau de pain, il disait « c'est mon corps, c'est nouveau ». Il veut qu'ils mangent du pain en se rappelant de Jésus-Christ, de son corps. Ensuite, à la fin du repas, le chef de famille, en fait, bénit la troisième coupe par une prière de reconnaissance, puis il chante la deuxième partie du Hallel, donc de 116 à 118, psaume 116 à 118. Et c'est lors de cette troisième coupe que Jésus indique que c'est son sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup. En fait, c'est l'inauguration de la nouvelle Alliance qui était annoncée, par exemple, dans Jérémie 31, qu'on peut lire, ou ailleurs aussi. Donc, lors de cette troisième coupe, Jésus annonce que c'est son sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup. C'est l'inauguration de la nouvelle Alliance. À partir de là, on entre dans la nouvelle Alliance avec l'œuvre de Christ à la croix et la résurrection. Et Jésus annonce qu'il ne boira plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où il en boira de nouveau dans le royaume de Dieu. Et en fait, cette parole, c'est une double promesse. C'est une double promesse parce que Jésus va mourir. Et là, il est en train de dire qu'il va en boire par la suite. Donc, il est déjà en train de dire, mais je serai vivant. Donc, il y a déjà un premier élément. Et la deuxième promesse, en fait, c'est qu'il sera dans le royaume de Dieu. Non seulement il sera vivant, mais dans le royaume de Dieu. Et d'ailleurs, il leur avait dit dans cette soirée, est-ce que c'était avant ou après, ça je n'ai pas vérifié, mais qu'en fait, il leur préparait une place dans ce royaume. Et les disciples, donc, avaient ceci en tête. Et le verset 26 nous parle du chant, parce qu'une fois terminé, ils annoncent la fin du repas que Jésus a pris avec ses disciples. Hein. C'est ce chant qui est donné ici au verset 26, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Les Juifs, lors de la Pâque, et là j'ai un texte qui date de 2020, c'est assez récent quand même, hein, 2020. Voici ce qu'ils disent, la fête de leur liberté, laquelle préfigure l'ultime rédemption par le Messie, puisse-t-elle se produire rapidement de nos jours? Voilà ce qu'ils disent encore aujourd'hui, les Juifs. C'est une citation de 2020, donc ça ne fait pas longtemps. Ça signifie qu'ils attendent toujours encore, alors que Jésus a clairement indiqué qu'il était la Pâque attendue, qu'il a accompli la sortie d'Égypte qui était une illustration, et il en est l'accomplissement. La Pâque, en fait, rappelait aux Juifs la délivrance de l'esclavage d'Égypte. Le repas du Seigneur nous indique la délivrance du péché accompli par Jésus-Christ. Vous voyez, le parallèle est extrêmement fort. Hein? La Pâque rappelait aux Juifs la délivrance de l'esclavage d'Égypte, qui était une image de quelque chose à venir. Hein? Hébreux nous parle des ombres des choses à venir. Et la réalité, c'est Christ. Et donc, le repas du Seigneur nous indique, nous rappelle la délivrance du péché accompli par Jésus-Christ. La Pâque rappelait aux Juifs que la mort d'un agneau innocent épargnait l'aîné de la famille. Le repas du Seigneur nous indique que la mort de Jésus-Christ épargne celui qui croit. La Pâque rappelait aux Juifs que le sang aspergé sur les lenteaux de la porte de la maison protégeait de l'épée de l'ange destructeur. Eh bien, le repas du Seigneur nous indique que le sang du Christ purifie l'âme et le protège de la juste colère à venir. La Pâque rappelait aux Juifs que personne n'est en sécurité dans cette nuit de destruction, sauf s'il mangeait de l'agneau immolé. Le repas du Seigneur nous indique que pour recevoir les bénéfices de Christ, il faut s'en nourrir par la foi et le recevoir dans son cœur. Jésus a invité ses disciples à ce repas important. Les autres évangiles, Matthieu, Luc et Jean, nous indiquent encore que Jésus a dit d'autres choses durant cette soirée. D'ailleurs, Jean nous dit qu'à la fin de ce temps, avant de sortir, ici, ben on va déjà sortir, Pierre lui veut déjà sortir, mais avant de sortir, eh bien, Jésus a fait une longue prière qu'on appelle la prière sacerdotale. Ensuite, il est sorti. Et Marc, que Jésus indique ici que Jésus annonce qu'il sera lâché par tous ses invités. C'est notre dernier point. Quatrième point, Jésus sera abandonné par tous ses invités. Relisons les versets 27 à 31, ou peut-être 26. Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Jésus leur dit, « Vous trouverez tous une occasion de chute, car il est écrit, « Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. » Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. » Pierre lui dit, « Quand tous trouveraient une occasion de chute, moi, pas. » Jésus lui dit, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante deux fois, toi, tu me renieras trois fois. » Mais Pierre affirmait plus fort, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous disaient de même. Voilà que Jésus sort de table, qu'il va prendre l'air avec ses disciples. Et là, Jésus donne en fait une preuve impressionnante de son amour. Il donne un avertissement, il les avertit et il leur donne une promesse phénoménale. Trois choses, je vais vous le montrer. La première chose, la preuve de son amour, c'est qu'il les a invités à ce repas très très riche en enseignement et en intimité, tout en sachant qu'ils allaient tous chuter. C'est un amour extraordinaire. Il aime ses disciples. Il sait qu'ils vont tous le laisser tomber et l'abandonner. Pourtant, il les invite et il vit un temps avec eux qui est des plus intimes qui a été vécu dans tout l'univers en fait. Jésus savait qu'ils allaient tous le laisser tomber et pourtant, il leur a donné son testament spirituel. Quel puissant encouragement pour nous. Jésus sait comment nous étions avant notre conversion. Nous étions coupables, souillés, mauvais et il nous a aimés. Et Jésus sait comment nous sommes après notre conversion. Faibles, errants, fragiles, et il continue à nous aimer. Jésus, deuxièmement, avertit ses disciples. Il est écrit, « Je frapperai le berger, les brebis seront dispersées. » En fait, il sait qu'ils l'abandonneront. Il les prépare à ce moment difficile. Il ne leur cache pas la difficulté. En fait, Jésus sait qu'ils les abandonneront. Il les prépare à ce moment difficile. Il ne leur cache pas la difficulté. Et pendant le repas précédemment, ces gens qui nous le rapportent, Jésus avait aussi averti ses disciples et nous, par la même occasion, que nous serons persécutés à cause de notre foi. Jésus ne cache pas la réalité, il l'annonce. Il l'annonce. Et Jésus, troisièmement, leur donne une promesse phénoménale, une promesse extraordinaire. Il leur dit, mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Phrase qui paraît anodine. C'est extraordinaire ici, une promesse extraordinaire. Jésus va mourir, tout le monde va l'abandonner et il leur annonce que non seulement il reviendra à la vie, mais qu'il les attendra en Galilée. Il ne les rejettera pas. Il les attendra en Galilée, il ne les rejettera pas. Même si Jésus sait qu'ils chuteront, il leur dit déjà qu'il les attendra, il les précédera en Galilée. Jésus sait que nous chutons, que nous chuterons encore malheureusement. Mais il nous précède dans le royaume de Dieu. Il nous prépare une place afin que là où il est, nous y soyons aussi. Il semble que ni Pierre, ni les autres disciples qui pensaient tous comme lui, parce que là, on a Pierre, hein. Mais tous les autres pensaient comme Pierre. Hein. Donc, il n'y a pas d'exception ici. Eh bien, toutes ces personnes semblent ne pas croire à ce que Jésus dit ici. Jésus vient dire qu'il est la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Hein. Jean 14, 6, ça c'est pendant le temps qu'il était avec ses disciples dans la chambre haute. Ils disent vouloir le suivre jusqu'à la mort. Hein, c'est très fort ici. Puis il dit une parole, il ne le croit pas. Ces paroles n'entrent pas dans leur tête. Ils n'entendent ni l'avertissement de leur faiblesse, ni la promesse de sa grâce. Ce qui va les conduire à succomber à leur faiblesse et ne pas avoir le soutien de sa promesse qui va les plonger dans une période très sombre entre la mort de Jésus et sa résurrection. Le fait qu'ils n'acceptent pas qu'ils sont si faibles, en fait, ils se font avoir, et le fait qu'ils ne reçoivent pas sa promesse et ils ne l'entendent pas, n'ont rien à quoi se raccrocher après être tombés. Heureusement, ça n'a pas duré trop longtemps. Enfin, le trop, c'est, quand on est dedans, c'est de toute façon trop, mais ça n'a pas duré longtemps. Or, que Dieu nous fasse la grâce de vivre dans l'humilité, acceptant les avertissements de notre faiblesse. Acceptons quand il nous dit « Vous êtes faible ». Oui, je suis faible. Ça veut dire que lorsque je suis face à la tentation, je vais pas dire « Je suis fort jusqu'à la mort » et poum. Non, face à la tentation, qu'est-ce qui va se passer? Je vais dire « Seigneur, aide-moi, j'ai besoin de toi. » Et dans les moments où nous succombons, malheureusement parfois, eh bien nous voulons saisir sa promesse, de revenir vers lui, de nous repentir et de saisir sa grâce. Quelqu'un disait « Il n'y a pas de péché vers lequel le meilleur saint ne peut se précipiter s'il n'était tenu par la grâce de Dieu, vivant de façon vigilante et baigné dans la prière. » La meilleure des personnes la plus sanctifiée, en fait, courrait vers le péché, vers n'importe quel péché, si la grâce ne le tenait pas. Il faut qu'on en soit conscient. Écoutons les avertissements. Courons vers celui qui, malgré que nous l'abandonnons souvent, lui ne nous abandonne jamais. Fuyons le péché et la présomption. Ne dites jamais « Je m'arrêterai à temps ». Je m'arrêterai à temps. En cherchant à jouir de votre réputation, de vos plaisirs éphémères, de vos biens passagers, alors qu'il serait temps de prendre position pour Jésus-Christ, là. Je gère. Je m'arrêterai à temps. Eh bien, je vais vous donner une petite histoire à laquelle penser quand vous dites ça. Par une superbe journée de décembre, un touriste admirait la grandeur et la beauté des chutes du Niagara. Le soleil brillait sur la glace et le faisait resplendir comme du diamant. Tout à coup, un spectacle étrange s'offrit à ses yeux. Un grand bloc de glace s'en allait à la dérive et sur ce bloc de glace, un mouton gelé. Bon. Aussitôt, un aigle énorme s'abattit sur le mouton et commença à le manger. Le bloc fut bientôt dans le courant, entraîné vers les chutes. De temps en temps, l'aigle levait orgueilleusement la tête et jetait un regard autour de lui et semblait dire « Oui, je vois le danger, mais au moment voulu, je m'envolerai. » Quand le bloc de glace eut atteint les chutes, l'aigle ouvrit ses puissantes ailes et voulut s'élancer dans l'espace. Mais quelque chose l'arrêta. Il poussa de grands cris, frappa la glace de ses ailes avec colère, mais pendant qu'il se repaissait du cadavre, ses pattes s'étaient enchevêtrées dans la toison gelée du mouton et s'étaient gelées à leur tour. Tous les efforts pour se dégager furent inutiles. En un clin d'œil, il disparut dans l'abîme avec le bloc de glace et le mouton. Quelle image frappante, hein ? Pour l'homme et la femme ou l'enfant qui traitent légèrement les tentations, le péché, en se disant « Je n'irai pas trop loin, je m'arrêterai à temps. » Quand tous trouveraient une occasion de chute, moi, pas. Ça vous rappelle quelque chose ? Jésus a invité des personnes qui allaient l'abandonner à son dernier repas. Il leur a manifesté un amour extraordinaire et il continue à le manifester à chaque disciple. Alors en conclusion, rappelons-nous que le repas du Seigneur que nous prenons actuellement une fois par mois ici dans l'Église est un repas que Jésus prépare pour nous. Ce n'est pas nous qui préparons un repas pour lui, c'est lui qui le prépare pour nous. J'aimerais vous lire une citation de Tim Chester dans son excellent livre « La vérité rendue visible » qui dit ceci. Paul parle de la table du Seigneur dans 1 Corinthiens 10-21. Nous sommes accueillis par Jésus. Jésus est effectivement présent par le Saint-Esprit et nous invite à manger avec lui comme un acte d'amitié, un signe d'amour. Ceux qui servent ne sont que la manière dont Jésus apporte le pain de la table à vos mains. Je trouve que c'est une très bonne façon de considérer la chose. Lorsque l'assiette ou le pain est placé entre vos mains, dites-vous silencieusement, « Jésus lui-même est en train de me donner ce pain. Il est l'hôte de ce repas. C'est son cadeau. C'est un signe de son amour. C'est son étreinte. » En utilisant les mains de la personne qui vous sert, Christ vous présente le pain et le vin parce qu'il veut communier avec vous et parce qu'il veut vous assurer à nouveau son amour. Il vous offre une invitation à goûter et voir qu'il est bon. Le réformateur hollandais du XVIIe siècle, Wilhelm Barkel, l'exprime ainsi. Le Seigneur Jésus, l'Époux, vient vers eux par amour pour passer ce repas avec eux et faire en sorte qu'ils se régalent avec lui. Avec amour et plaisir, il les regarde assemblés autour de lui. C'est là que le Saint-Esprit est actif, remplissant l'âme de lumière, de grâce et de réconfort. Fin de citation. On a vu ce matin dans ce texte, Jésus a préparé le repas. Jésus suscite l'examen de soi. Et on a vu, il n'y a pas besoin de chercher des détails dans notre vie. C'est clair. Vous voyez dans votre vie. Troisièmement, Jésus explique le repas qui souligne l'alliance et la promesse de son retour. Et quatrièmement, Jésus invite même ceux qui vont l'abandonner parfois. Jésus invite ceux qui sont faibles. Donc répondons par la foi et manifestons en fait notre joie chaque fois que nous pouvons prendre le repas du Seigneur. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, ta parole nous guide vers toi. Ta parole fait lever nos regards vers Christ. Et nous voyons Marc qui rapporte beaucoup de paroles de Pierre qui était pressé de démontrer que Jésus a préparé ce repas. Qu'il y a une chose étonnante où lui-même s'est même demandé s'il allait trahir Jésus. Il a été rassuré tout en étant averti de sa faiblesse. J'aimerais, Seigneur, te dire merci parce que tu as donné ce repas pour tes disciples, afin que nous puissions nous souvenir avec nos sens, donc avec nos yeux, avec notre goût, avec le toucher, avec l'odorat même, que Christ s'est donné, qu'il a tout accompli. Ce repas n'a rien d'une action que nous pouvons faire pour nous approcher de toi. C'est plutôt une action qui montre que tu t'es approché de nous et que tu as tout accompli. Seigneur, nous sommes rassurés de voir que tu as invité ces disciples même qui, quelques heures plus tard, t'ont abandonné. Mais des disciples que tu as retrouvés, des disciples à qui tu as donné un rendez-vous. Et j'aimerais, Seigneur, te prier de nous donner cette grâce de venir au rendez-vous que tu nous fixes. De ne pas avoir peur parce que nous aurions un jour écarté ce désir d'être selon toi dans tout ce que nous vivons. C'est là que tu nous dis, j'ai un rendez-vous avec toi, viens. Viens, j'ai manifesté ton amour en te sauvant alors que tu étais perdu, tu ne le méritais pas. Et je continue à te manifester mon amour alors que tu n'es pas encore parfait. Et que tu ne mérites toujours pas mon amour. Mais je t'aime. Oh, merci pour cet amour, Seigneur, qui nous rassure, qui nous encourage et qui nous stimule. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.